Mesdames, Messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie et le roman, c'est différent.
Dans le cadre du Festival de Marseille, qui se conclura le 12 juillet, Grenouille développe une thématique autour de la notion de transmission. Transmission, une notion qu'on apprécie souvent sur le mode vertical, un héritage culturel qu'on se transmettrait d'une génération d'artistes à la suivante, une sorte de patrimoine. Patrimoine, un mot qui sonne comme patrie et moine. De bonnes raisons d'aller voir ailleurs, d'envisager la transmission sur le mode horizontal, entre artistes ayant des pratiques et venant d'horizons différents. Dans la programmation de ce Festival de Marseille, j'ai donc choisi de vous présenter deux créations transversales. La première, Erarit Jaritjaka, un texte d'Elias Canetti, mis en scène par Heiner Goebbels, relève du théâtre musical, un genre sensiblement différent du théâtre et de l'opéra que nous explorerons en compagnie d'André Wilms, interprète principal de cette pièce. La seconde, Métapolis 2, est le fruit de la collaboration entre le Ballet National de Marseille et l'architecte Zaha Hadid. Quel lien peut-on tisser entre la danse et l'architecture ? C'est ce que nous expliquera Frédéric Flamand, chorégraphe et directeur du BNM. Bienvenue dans cette dernière émission de la saison, intitulée « Transmission horizontale ». Erarit Jaritjaka. Ce spectacle de théâtre musical était présenté en ouverture du Festival de Marseille. Ça signifie, en langue aranda, être animé du désir d'une chose qui s'est perdue. Ou bien, plus simplement, nostalgie. Quelle nostalgie ? André Wilms nous en livre son interprétation.
Alors, la nostalgie. Méfions-nous de la nostalgie. On en a évidemment, c'est la nostalgie du lien social qui s'est rompu, la nostalgie de... C'était toujours mieux avant, hein. Déjà ma mère disait, c'est vachement mieux avant, quoi. Tout est mieux avant, l'architecture était mieux avant, la musique rock était mieux avant, c'est mort la musique rock. On a donc déjà une furieuse tendance à penser que tout était toujours mieux avant. Bon, je crois qu'il faut s'arrêter, je crois que c'est une question d'âge, aussi biologique, quoi. Mais en même temps, il y a une catastrophe quand même, il faut bien le dire. Il y a une catastrophe généralisée du lien social, quoi, disons. Alors ça, il faudrait pouvoir en parler avec humour, et j'espère qu'on l'aborde avec humour, et non pas avec le désespoir, parce que je ne sais plus qui a dit, le désespoir est un sentiment trop communément répandu pour ne pas être vulgaire. Ce qui n'est pas tout à fait faux, quoi. Alors j'espère qu'on l'aborde en gentleman, un peu désabusé et un peu cynique. Mais gardons raison, le théâtre n'est pas là non plus pour résoudre les problèmes de la société. Elle a déjà assez de mal à les résoudre elle-même. Le théâtre ne peut qu'accompagner. On a très longtemps cru que le théâtre pouvait avoir un rôle d'avant-garde ou d'éveil des consciences. Ça, par exemple, c'est une nostalgie. Ça ne l'a pas. Nous en serons bien clairs. Parce que je pense que le public vieillit, incontestablement. Ou alors, on aborde des hordes scolaires qu'on met dans des bus et qu'on jette dans les classiques. Mais si tous les scolaires qui ont assisté à mes spectacles étaient des spectateurs potentiels de théâtre, ça fait 30 ans, le théâtre ne pourrait plus jamais fermer, quoi. Il y aurait des millions de personnes. Donc, l'échec du théâtre populaire est flagrant. Mais bon, donc on est dans une situation un peu pathétique. Bon, pathétique, oui, entre guillemets, en riant, quoi. On a une situation un peu ridicule. Mais le ridicule ne tuant pas, on essaie de s'en sortir avec élégance, quoi. Et un minimum d'humour.
Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on commence à regarder cette modernité du XXe siècle, précisément avec un peu de nostalgie?
Ah, on est quelque part dans une... Alors, on va pas appeler ça... On est quelque part dans une impasse. Hein. Après Malevitch, carré noir sur fond blanc, après le dodécaphonisme, après Cage, qui fait un concerto pour le silence, on a sombré dans un espèce de postmodernisme. Alors bon, les philosophes en parleraient mieux que moi. Hein, ça, Baudrillard, disons, alors, qui va plus loin encore que les situationnistes, qui dit que tout n'est plus que simulacre, en fait. Que... Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui sont très difficiles à traiter au théâtre, la crise de la modernité. Il faut humblement essayer de montrer une série de choses aussi concrètement que possible, et les gens en tireront les conclusions qu'ils en veulent. C'est-à-dire que j'ai encore l'énorme espoir qu'il y a une part du public qui est quand même assez intelligente pour pouvoir en tirer les conclusions qu'elle peut. Donc laissons ouvert, gardons-nous aussi d'être très violents sur les... On l'a suffisamment été, hein. Je me souviens avoir écrit, en compagnie de Pierre Boulez à l'époque, il avait aussi écrit « Faut brûler tous les opéras, faut brûler les théâtres ». On a été dans cet extrémisme-là. Alors est-ce qu'on a mis de l'eau dans notre vin ? Oui, on n'a pas réussi à changer la société. Espérons simplement que la société ne nous change pas trop. C'est tout, voilà.
Erarit Jarijaka est une pièce de théâtre musical. De votre point de vue, à la fois en tant que comédien, mais aussi en tant que metteur en scène, puisque vous êtes à la fois l'un et l'autre, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle ou une comparaison entre ce théâtre musical et l'opéra? Vous avez signé plusieurs mises en scène d'opéra. Est-ce que le théâtre musical serait, ma question est un peu provocante, hein, une forme d'opéra dont on n'aurait gardé que les récitatifs et viré tous les arias?
Il y a eu, si on veut en faire une historique très très rapide, il y a eu une crise de l'opéra au XXe siècle. Hein, tout d'un coup, les compositeurs contemporains, l'opéra, ça ne les inspirait plus des masses. C'est d'ailleurs, même beaucoup n'en ont pas écrit. Qu'est-ce qui reste comme grands opéras? Après Wojtek et Loulou, il y a la fille aux allumettes de Lachmann. Mais bon, il n'y a plus quand même de grands opéras mythiques. Donc il y a une crise de l'opéra chez les compositeurs. Donc ils ont essayé de trouver une autre forme, qui était une forme de théâtre musical, qui a aussi été un échec, il faut bien le dire. Ça n'a pas non plus solutionné le problème du rapport de la musique à la langue. Et aussi... Qu'est-ce que racontait l'opéra? Il y avait une crise, quoi. Je t'aime, tu m'aimes plus, je te tue, les livrets débiles. Donc on a essayé de remplacer ça par de la littérature, mettre la musique sur la littérature. Ça a aussi souvent donné des échecs. Ça a aussi souvent... C'est-à-dire que le théâtre musical, pas plus que l'opéra au XXe siècle, n'est une solution. Il n'y a pas de clé. C'est ça qui, d'ailleurs, on revient toujours à notre question. Il n'y a pas de totalisation possible. Il y a des tentatives. Je crois que Goebbels est une tentative assez originale parce qu'il met en scène la musique plus que faire du théâtre musical. Il met en scène la musique. Alors ça, c'est sur le point de vue des metteurs en scène. Sur le point de vue de l'acteur, moi, ce que j'aime bien, disons, avec la musique, j'ai une sainte horreur du pathos de l'acteur, de l'intensité, de la sensibilité à fleur de peau, de l'interprétation excitée comme ça et de la tartine psychologique qu'on balance sur tous les textes. Le théâtre musical se rapproche pour l'acteur d'une technique objective, comme les musiciens qui font un do. Quand c'est un ré, c'est faux. J'ai toujours une nostalgie de ça. Alors là, c'est composé. J'ai 17 secondes pour dire ça. Je suis entre trois phrases. Je dois compter 1, 2, 3. Je dois dire mon texte. 1, 2, etc. Donc ça me donne une espèce de technique objective, de discipline presque sportive. Et ça évite tout le pathos de l'ego, quoi. Tout le répandage que je trouve parfois chez les acteurs un peu pénible. Et comme je fais mienne la phrase de Robert Mitchum qui disait « Je suis devenu acteur parce qu'un jour j'ai vu Rintintin à la télévision et ce qu'un chien arrive à faire, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. » Ce que je trouve toujours une parfaite définition de l'acteur parce que c'est un peu gonflant les acteurs qui se répandent, qui ont un avis sur tout d'ailleurs aussi, qui se répandent en « Oui, c'est ma sensibilité d'enfant. » Ça m'a toujours un peu agacé. Donc j'aime bien ça, le faire en tant qu'acteur parce que c'est presque un rapport artisanal à la chose.
Donc vous travaillez avec une partition, est-ce que vous êtes attentif du coup au timbre de votre voix, à la hauteur des notes, des mots que vous donnez?
Oui, j'essaye, mais j'essaye aussi de ne pas me faire piéger par le piège de la belle voix. C'est Burton qui disait ça, il disait « la seule indication qu'on peut me donner, c'est méfie-toi de ta voix, parce qu'elle est jolie, alors on fait des effets avec, non, il faut penser contre sa propre voix, il faut la détruire un peu. C'est pour ça que je bois et que je fume. C'est une bonne excuse. » Thank you.
Le texte d'Elias Canetti que vous donnez est constitué de fragments, on parle même de musée de phrases. Est-ce que, je crois que vous avez une assez longue complicité avec Ainer Goebbels, c'est le troisième spectacle que vous montez avec lui, après ou bien le débarquement désastreux et puis Max Black. Est-ce que dans ce travail avec Ainer Goebbels, vous avez participé au choix des fragments, à leur ordre, à la manière dont le travail de mise en scène de ces voix a été opéré?
Oui, on en discute bien entendu, mais je me garde aussi bien quand je suis sur le plateau, je pense que j'ai pas une très bonne vision de moi-même, donc je fais totalement confiance à Ainer. Et celui qui décide des... Bon, les textes, on en discute, est-ce que celui-là est bien, est-ce que ça c'est, est-ce que... Bon, mais après, dès que je passe sur le plateau, je ne suis plus qu'un exécutant, je ne suis pas un comédien metteur en scène, je suis un comédien ou un metteur en scène, mais je suis pas les deux, parce qu'il y a rien de plus agaçant que les comédiens qui se mettent à discuter de tout, comme ça. Donc j'obéis. Et parfois, obéir, c'est pas si mal que ça. Donc, je participe évidemment au choix des textes, on en discute avant, mais une fois qu'on passe à la chose concrète, je me tiens à carreau.
Dans l'ensemble de l'œuvre de Canetti, un élément est très saillant, c'est le rapport entre l'individu et la masse. Il a notamment écrit un ouvrage vraiment consacré à cela, sur lequel il a travaillé très, très longtemps. Est-ce que vous-même, dans ce travail, vous avez ressenti que votre intervention de comédien, que votre voix était singulière, face ou associée à un ensemble de musique? Est-ce que c'est un peu ce même rapport entre l'individu et la masse, celui que vous avez, vous, seul sur le plateau, avec la musique qui est autour de vous?
Le rapport que Canetti décrit est un rapport très différent de celui qu'on pense maintenant comme individu. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui a sa grand-mère qui est morte d'un cancer en fait un bouquin, ou qui a trompé son mari deux fois, ou qui a une expérience de sexuelle où elle s'est fait taper un peu sur le cul avec un fouet, trouve que c'est intéressant d'en faire un bouquin. C'est-à-dire qu'on est dans la règne de l'autobiographie absolue. Alors, c'est pas de ça que parle Canetti. Canetti parle de la tentative de pouvoir, dans un mouvement de masse, rester un individu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a contradiction entre un mouvement de masse et l'individualisme? C'est un autre problème. Maintenant, tout le monde parle de soi-même avec beaucoup de complaisance. On est tous chez Mireille Dumas, quoi. Donc, c'était quand même pas ça la chose de Canetti, quoi. C'est effectivement, il s'est interrogé sur, par exemple, comment on peut rester un individu dans un mouvement communiste. Est-ce que c'est possible, simplement? Est-ce que le mouvement de masse ne passe pas par l'annihilation de l'individu? Lui, il pensait que non.
Qu'est-ce que vous en pensez vous-même?
J'ai été très longtemps militant. C'est compliqué. C'est un long débat. C'est très long. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai une nostalgie de l'être ensemble, mais j'ai aussi une peur terrible maintenant de ce qu'on pensait à l'époque. Enfin, je veux dire, on a quand même... Je ne renie pas. Hein. Pas du tout. Hein. Je ne suis pas un renégat de cette pensée-là. Mais c'est une solution qu'on n'a pas résolue non plus. On s'est très vite aperçu. Moi, j'ai bossé en usine. Bon, pas que le prolétariat ne voulait pas faire la révolution. Nous, on était dans cette espèce d'avant-garde. Donc, on s'est excités. On a presque failli sombrer dans la lutte armée. Heureusement, les intellectuels français nous en ont empêchés. Il faut leur rendre hommage à ça, quand même. À Sartre, notamment, qui a dit, bon, on ne se substitue pas au mouvement de masse. Le bras armé, c'est des masses, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire une élite armée qui nous a évité les dérives brigadistes ou RAF, type allemande. Donc c'est aussi un... Je n'ai pas de réponse. Je sais simplement que j'ai toujours été dans cette contradiction-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans cette déliquescence des mouvements de masse, dans cette désagrégation, finalement, les deux seuls endroits où l'on puisse encore être ensemble, c'est dans une manifestation et au spectacle?
Oui, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le théâtre. Le théâtre vieillit. Enfin, le public de théâtre vieillit. Incontestablement aussi, ça tient à l'éducation, ça tient à plein de choses. C'est, disons, cette fameuse éducation humaniste que nous, on a rejetée de toutes nos forces. Elle n'est plus là non plus. Personne ne fait de grec, de latin. Ça a disparu. L'idée des Lumières, que le progrès irait toujours en avant, que tout le monde lirait Goethe demain matin, ou l'idée de Villard, que tout le monde lirait Corneille à Boulogne-Billancourt. Ça fait long feu, quoi. Et donc, là, restons humbles. Essayons simplement de survivre un peu là-dedans. Et de donner à penser aux gens qui viennent encore.
Dans ce tournant esthétique dont s'est inspirée l'œuvre d'Elias Canetti, ce tournant entre le 19e post-romantique et puis le 20e siècle moderne, On envisageait souvent les créations transversales comme des Gesamtkunstwerk, des œuvres d'art totales. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a vraiment une conception tout autre précisément de ces œuvres transversales ou englobantes ou mixtes ?
Je crois, le Gesamtkunstwerk en a pris un sacré coup dans les gencives. Il y a aujourd'hui, je dirais, une révolution qui se prépare et que nous sous-estimons, évidemment, parce qu'on est trop âgés. Mais c'est vrai que ce virtuel, enfin, toute cette électronique, les baladeurs, les machins, les computers, tout ça, c'est vraiment une révolution dont je ne mesure absolument pas la portée. C'est marrant parce que quand il y a, par exemple, beaucoup de jeunes publics, parfois, alors... Ils ont éteint leur téléphone portable, mais on a tous les halos des écrans, parce que pendant, quand ils se font chier, ils regardent sur leurs écrans, ils font des SMS. Et dans la salle, il y a comme un halo de tous ces petits écrans, surtout quand il y a des scolaires. Alors au fond, on voit un halo comme ça, lumineux. Alors ça, c'est une chose qu'on sous-estime complètement, parce qu'en même temps, peut-être qu'ils écoutent, mais en même temps, ils font un SMS. Ils sont complètement éclatés aussi. Ils ne sont plus unifiés. Et ça, c'est très, très troublant. Très, très troublant. I had the craziest dream last night. Yes, I did. I never dreamt it could be. Yet there you were in love with me. I saw your lips close to mine. So I kissed you, and you didn't mind it at all. When I'm awake, such a break never happens. How long must a guy go on dreaming? If there's a chance that you care, then... Say you do, baby. Say it and make my craziest dream come true.
Autre spectacle à venir, celui-ci les 4 et 5 juillet au parc Henri Fabre, Métapolis 2 de Frédéric Flamand et Zaha Hadid. On l'a bien compris, il ne s'agit pas seulement de confier la scénographie d'un ballet à une architecte de renom, mais plutôt de continuer une réflexion sur le corps et la ville auxquels Zaha Hadid, Jean Nouvel et Dominique Perrault ont successivement participé. Pourquoi cet intérêt pour l'architecture ? Frédéric Flamand nous répond.
Depuis une quinzaine d'années, je me bats aussi pour quelque part pour sortir du cadre restreint de ma discipline et du cadre dans lequel je travaille. Donc la sortie de ce cadre est une chose extrêmement importante. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à travailler avec des architectes. Puisqu'à l'origine, comme je vous le disais, on faisait des spectacles dans des églises, dans des anciens bâtiments abandonnés, dans des bassins de natation désaffectés, des choses pareilles. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler avec des architectes parce que j'avais envie de réinterroger un espace plus classique, disons, qui est l'espace du théâtre, qui est l'espace du théâtre à l'italienne. Et donc de partir à la recherche de nouvelles structurations de l'espace. Et je crois que les architectes ont été évidemment... C'est comme ça que je me suis tourné vers l'architecture, si vous voulez, pour continuer ce voyage... d'explosion du cadre, quelque part, et de sortir de ce cadre étroit que la Renaissance nous a laissé comme une espèce de carré, comme l'est une salle à l'italienne. Alors comment faire exploser cet espace-là ? Et donc les architectes avec qui j'ai travaillé, c'est tout à fait autre chose qu'un décor, bien sûr. On travaille au niveau du concept, comment échapper à cet espace. D'abord la création d'un contenu d'un spectacle, mais aussi une interrogation sur l'espace même de la création artistique. Et donc ce qu'ils ont proposé, tous quelque part, mais très différemment selon leur personnalité, c'est des interférences, des interférences pour les danseurs, qui vont tantôt de la contrainte, comme le travail avec Jean Nouvel, tantôt créer des espaces nouveaux, autres, des espaces inédits pour la danse. Et ça, ça devient évidemment extrêmement intéressant.
Marseille, une ville de contraste entre l'espace maritime, l'espace bâti, de contraste aussi entre des populations, contraste aussi dans Métapolis 2, contraste entre l'intime et le public, contraste entre des lignes brisées et la fluidité des mouvements, contraste entre l'ordre et le chaos. Ces contrastes, vous essayez de les révéler, ou bien de les résoudre, ou bien de les atténuer, ou bien de les sublimer, rayer la mention inutile?
Non, non, certainement pas les sublimer. Au contraire, je crois s'en accaparer. Comme je vous le disais, on est influencé par, tout le temps dans la création par la ville, par le mouvement. Parce que la ville est mouvement aussi. Tom May, l'un des architectes avec qui j'ai travaillé, citait Wim Wenders en disant on prend quelqu'un qui est dans un taxi, par exemple, appréhende de manière incroyable le rythme d'une ville. Il voit une succession de flashs qui se succèdent très rapidement. Et c'est ça, la ville n'a plus aucun rapport avec l'harmonie classique aujourd'hui. La ville, effectivement, on peut dire qu'elle est, elle est brisure, elle est opposition, elle est happening aussi. Bon, elle est chaos, mais pas dans un sens négatif. Elle est accumulation, elle est fragmentation. Et je crois que c'est ça aussi la richesse d'une ville. Bon, c'est ça que nous aimons dans la ville, effectivement. Ce métissage, en plus, à tous les niveaux. Je crois que c'est ce qui fait la force. C'est ce qu'on retrouve un peu, d'ailleurs, dans Marseille, dans cette dynamique très particulière qu'il y a à Marseille. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les grandes villes, d'ailleurs. Vous alliez, je ne sais pas, à Mexico, à São Paulo, et dans les grandes villes européennes, ici, et même à Marseille, la diversité, on passe d'un quartier à un autre, entre la Madrague de Montredon et les stacks, je veux dire, il y a un monde, quoi. On traverse différentes strates, comme ça. Et je crois que ça fait aussi la richesse d'une ville, une ville qui change aussi, puisqu'on parle de Marseille. Et on sent ce rêve d'une nouvelle ville avec des bâtiments modernes, la Joliette, le nouveau tram, etc. Bon, c'est aussi extrêmement intéressant de voir qu'une ville bouge. Mais il y a des rythmes différents, évidemment, selon les villes et selon les quartiers. Et donc, c'est aussi une chose qui est intéressante d'analyser et qui nous influence sur le plan artistique. La notion de temps. Le temps du corps, le temps de la ville aussi, qui est beaucoup plus lent. On voit les travaux prennent des années, on le voit bien à Marseille. Le temps du corps est beaucoup plus rapide, évidemment. Nous vivons tous les jours, mais aussi le temps du corps qui crée sa propre ville. Chaque jour, nous nous réveillons. Et je pense ici au merveilleux livre de Pérec, Espèce d'espace, et où on crée sa propre ville, le corps crée sa propre ville aussi. Chacun, en fait, de nous crée chaque jour sa propre ville. Et c'est une chose très belle qu'on pourrait aussi imaginer comme une chorégraphie éphémère qui est notre vie, qui s'écoule du matin au soir.
Avec Métapolis, la ville entre dans la danse. Est-ce que vous ne pensez pas que la réciproque devrait être encore plus vraie, c'est-à-dire qu'il faudrait que la danse soit encore plus présente dans l'espace de la ville, je veux dire dans son espace public, dans l'espace des rues, dans l'espace des places?
C'est un rêve que forcément que la danse soit dans la ville tout le temps, comme ici, mais on voit aussi la difficulté de la chose, parce que, bon, par exemple, le Festival de Marseille, qui crée cet espace extraordinaire dans notre parc, bon, on voit aussi que cela coûte très très cher. Et donc il y a un investissement énorme pour la danse. Ou alors c'est une danse beaucoup plus brute, qui est plus proche de la performance ou du happening, bon, qui est très intéressante aussi, qui peut se faire en rue, à une terrasse de café. C'est un autre type de danse. Nous, évidemment, nous travaillons sur des choses très techniques aussi, en utilisant, je crois que moi je fais partie de ce type d'artiste qui aime bien utiliser les outils de son époque. On a une époque de technologie outrancière. Et donc, je crois que c'est intéressant, pas pour le plaisir d'utiliser de la technologie ou de l'image vidéo, mais pour interroger ce monde de l'image et d'une manière critique aussi, d'avoir une vision critique. Je crois que c'est aussi le rôle de l'art, d'avoir une vision critique sur son époque. Or, le corps, aujourd'hui, se fait de plus en plus représenté par des programmes, par des machines, par des images. Parfois, l'image devient plus importante que la réalité, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je travaille avec l'image, pour interroger, justement, ce que certains appellent la disparition du corps. Bon, c'est un grand mot, nous n'en sommes pas là, heureusement, Mais effectivement, nous vivons dans une civilisation de prothèses et d'images. Nous nous sommes entourés de prothèses, nous sommes assistés par des prothèses et par des images qui nous imposent souvent nos comportements. Il suffit de voir, bon, je pense ici à tout l'univers de la publicité, de la télévision, des magazines, de ce bombardement incessant d'images qui dictent à notre corps certains comportements. Il faut être beau, il faut être jeune, il faut... Bon, hein, nous sommes dans une société qui a extrêmement peur de la vieillesse, par exemple. Hein, ce sont des choses qu'on cache de plus en plus. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'analyser cela de manière artistique, en articulant la création artistique sur le quotidien.
Métapolis est bien sûr un spectacle de danse, mais c'est aussi une création pluridisciplinaire, transversale. Aujourd'hui, bien que cela tende à évoluer, les arts sont encore fortement enfermés dans des structures, des compartiments, des disciplinarités, des académismes. Est-ce qu'un des points forts de votre travail à Marseille, au-delà de cette création, mais comme directeur du Ballet National de Marseille, va être de vous efforcer de décompartimenter, de décloisonner ?
Oui, décloisonnement, ouverture, ceci dit aussi interrogation sur la mémoire, hein, puisque vous savez, comme vous le savez, il y a deux axes. Il y a l'axe à la fois de l'innovation, hein, qui est celui qui m'excite très fort en tant qu'artiste, et il y a aussi une interrogation sur la mémoire, qui est une chose qui est extrêmement intéressante, parce qu'on vit justement dans une époque qui rejette de plus en plus. Hein, nous sommes dans le triomphe de la vitesse. Hein, comme disait magnifiquement Paul Virilio, on n'achète jamais le journal d'hier, mais toujours celui de demain. Mais bon, c'est vrai, nous sommes dans une espèce d'accélération incessante, quoi, hein, qui peut aussi avoir, qui peut avoir certains dangers aussi. C'est que ça peut aussi amener à une certaine amnésie. Donc je crois que la notion de mémoire aussi n'est pas du tout inintéressante, surtout dans un pays comme la France, pays de l'exception culturelle, hein, qui est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu travailler en France. Que je crois que c'est extrêmement important de garder ces notions d'exception culturelle et que la culture, parce que c'est un des grands combats du XXIe siècle, c'est le rapport de la culture et du commerce, en quelque sorte. Et l'Amérique nous montre un très bel exemple à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire tous les grands artistes américains que nous admirons tant en danse, par exemple, seraient nulle part s'ils n'avaient pas des grands pays européens pour les aider, pour les soutenir et les présenter dans leur festival respectif. Donc je crois que là, il y a une notion extrêmement importante, à la fois très contemporaine, d'interrogation, d'articuler la création sur le monde contemporain, et en même temps d'avoir une réflexion sur la mémoire et sur l'histoire. L'histoire des avant-gardes aussi, ne l'oublions pas. Vous parliez du pluridisciplinaire, bon, qui est une chose qui me tient très fort à cœur, mais ça n'a absolument rien de neuf. Je crois que la création est une chaîne. Bon, on peut imaginer que le Bauhaus, c'était les ballets russes, les ballets suédois, avaient déjà ces obsessions de mettre en rapport des artistes de différentes disciplines. Ici même, dans ce bâtiment qui a été... dont le père fondateur est Roland Petit, c'est toujours intéressant de rappeler qu'il a travaillé avec des très grands artistes, comme Keith Haring, comme David Tockney, à qui il demandait des décors. Bon, peut-être que ce n'était pas vraiment une intégration, mais c'était quand même une approche de ça déjà extrêmement intéressante.
Vous avez tout à fait raison de le faire remarquer, la pluridisciplinarité n'est pas tombée de la pluie de la veille, elle existe depuis très longtemps, mais elle prend un relief tout à fait particulier ces dernières années, parce qu'elle est aussi le reflet d'une volonté de combattre de grandes difficultés qui frappent en ce moment le monde de la création artistique dans ce pays. On pourrait presque dire qu'elle est aujourd'hui un effort pour dépasser une sorte de dialogue de sourds entre les artistes d'un côté et les institutions de l'autre. Et on pourrait résumer ça en disant, mais sans les artistes, la ville se défait. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais enfin... Ce défait, il n'y a pas que les artistes, hein. Y a pas que les artistes. Je crois qu'il faut un peu élargir aussi le débat. On peut aussi parler de citoyens. Je crois que nous sommes tous créateurs quelque part. Je crois que c'est aussi une des choses qu'on essaye d'apporter au public, de lui proposer des associations qui libèrent des zones de création chez tout un chacun. Je ne crois pas que l'art non plus est une... Bon, bien sûr, peut-être que les artistes sont des visionnaires, hein, qui apportent parfois des visions sur ce qu'une société peut devenir, prémonitoires parfois, hein, probablement. Mais on ne peut pas dire que seuls les artistes aient ce rôle. Mais effectivement, bon, je crois que ce qui est intéressant dans une société de calcul qui est la nôtre de plus en plus, c'est que l'art, bon, c'est peut-être une phrase terrible de dire ça, mais ne sert à rien. Ce n'est pas une chose... Oui, on peut la vendre, la récupérer, mais finalement, ça ne sera jamais hein, comme des actions ou du pétrole. Et donc ça, c'est aussi la chose intéressante et très belle, justement, cette espèce de gratuité qui peut paraître absurde à certains, mais qui est la vraie force de l'art aussi, parce que c'est aussi sa grande liberté, justement.
Guy Debord disait « L'art est inutile, mais il l'est radicalement ».
Oui, voilà, bah oui, ça résume parfaitement ça, quoi.
Zaha Hadid est votre complice pour la création de Métapolis 2, comme d'ailleurs pour la création du premier Métapolis. Son architecture est à la fois très, très contemporaine, fait appel à certaines formes de déconstruction, on pourrait parler de postmodernisme, et en même temps c'est une architecture très respectueuse de l'esprit de la modernité du XXe siècle. Vous parliez tout à l'heure du Bauhaus, je trouve que c'est presque un éloge du Bauhaus, cette architecture. Est-ce que vous partagez cette volonté de réconcilier le moderne et le contemporain, voire même le classique et le contemporain?
Oui, non, mais je crois que c'est aussi... écoutez, bon, il y a eu toute une révolution de la modernité qui a eu lieu. En danse, par exemple, aujourd'hui, les trois quarts des festivals mondiaux sont de danse contemporaine. Ça, c'est intéressant d'analyser. Donc il y a eu une espèce de triomphe quelque part de la modernité. Donc c'est aussi intéressant au XXIe siècle de rechercher des liens inédits avec le passé. Par exemple, il y a une phrase qui m'avait toujours frappé chez Marinetti en 1916 quand il disait qu'il rêvait... justement d'un art sans mémoire, d'une espèce de tabula rasa. Et ça a eu lieu, en fait, quelque part. Hein. Et je crois que, justement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de réinterroger... et je crois qu'on peut, des artistes peuvent aussi avoir des liens avec des artistes du passé, par exemple. J'en suis persuadé. C'est comme des chaînes qui ont été interrompues et qui reprennent 50 ans après. On parlait du Bauhaus, les expériences de Schlemmer, par exemple, qui ont été tout à fait extraordinaires et qui ont dû s'arrêter à un moment. Bon, au niveau architecture, je ne sais pas, moi je reviens, on a été à Tel Aviv il y a une semaine et on a découvert toute l'architecture du Bauhaus dans ce qu'on appelle la ville blanche. Et moi, je ne savais pas du tout ça, j'ai découvert ça. Et effectivement, des architectes ont dû quitter l'Allemagne et ont été là et ont recréé, ont continué leur recherche architecturale. Et une partie de la ville sort de... vient du Bauhaus. Quoi. Et c'est fabuleux aussi de voir ça, qu'il y a cet héritage-là aussi. Et donc, Zaha, effectivement, mais ça remonte beaucoup plus loin. Zaha, elle dit « Je suis une babylonienne, 5000 ans ». D'art, d'existence. Et elle crée d'abord, j'ai été très fort frappé parce qu'elle fait des espèces de petits dessins qui sont des calligraphies arabes et qui sont à la limite, à la base de toutes ces architectures incroyables quand on pense. Elle m'avait donné un petit carnet de dessins. Bon, vraiment des petites calligraphies comme ça, magnifiques. Et puis ça donne des images virtuelles, puis des plans. Et puis ces 150 assistants travaillent là-dessus et on commence à faire des maquettes. Et puis ça devient le bâtiment qui a coûté le plus cher en Allemagne cette année, qui est le bâtiment BMW. Et donc il y a là un rapport à la mémoire aussi, on en reparle, et qui est extrêmement intéressant. Et qui est une traversée d'époque aussi, qui est de, je crois que c'est extrêmement une chose que je ressens très très fort. Par exemple, moi j'ai été influencé très fort par un spectacle par Bruegel l'Ancien, par exemple. Bon, j'ai eu beaucoup d'émotions là-dessus, au musée d'art ancien à Bruxelles. Et j'ai retrouvé aussi des choses de mon enfance, les kermesses flamandes, par exemple, sur un lac glacé. Bon, voilà des choses qui peuvent vous influencer au niveau d'un spectacle, par exemple. Bon, je ne dis plus maintenant, aujourd'hui on parlait de la lumière de Marseille par exemple, mais c'est la même chose.
Zaha Hadid, Dominique Perrault, ce sont des stars de l'architecture. Est-ce que vous ne seriez pas tenté, et puis non seulement vous-même, mais aussi de nombreux autres chorégraphes ou directeurs de ballet, de travailler avec de jeunes architectes qui n'ont pas forcément 150 assistants avec eux? Oui, c'est aussi une profession qui a besoin de travailler.
Oui, non, c'est clair. Mais je travaille beaucoup de jeunes architectes. Bon, j'ai fait tout un travail. Je suis professeur à Venise, aussi à l'école d'architecture. Donc là, justement, j'ai travaillé avec une dizaine de jeunes architectes qui étaient dans l'école, dans l'université, et qui ont collaboré d'ailleurs au spectacle La Cité Radieuse. Et il y a d'autres spectacles aussi, hein, parce que n'oublions pas, tous les architectes aussi travaillent avec de jeunes architectes, justement. Quand on dit à 150 collaborateurs, c'est 150 architectes potentiels qui feront leur propre travail après. Et donc, oui, et en même temps, vous savez, quand j'ai rencontré Zaha, elle construisait très peu. Ce n'était pas la star qu'on connaît aujourd'hui. Quand j'étais la voir à Londres, elle trouvait ça très intéressant comme proposition. Elle a dit, bon, on peut commencer à travailler demain, si vous voulez. J'ai dit, mais vous savez, moi, on n'a pas les moyens financiers de travailler demain parce qu'on a un projet dans un an et tout. Bon, maintenant, ce serait impossible. Elle ne vous dirait pas ça. Elle dira, je serai peut-être libre dans 3 ans pour faire... Et donc, je crois que ce n'est pas une question que ce soit des stars, c'est des affinités avec des gens qui sont des visionnaires de leur époque. Et je crois que c'est surtout ces gens-là que j'ai été trouvé. Quand j'ai été trouvé Dealer Scofidio à New York, c'est parce que j'avais lu une phrase, ils n'étaient pas très connus à l'époque, les architectes ne les prenaient pas très au sérieux, on considérait que c'était des artistes visuels, et les artistes visuels disaient « Ah non, ce sont des architectes ». Donc ils avaient une situation extrêmement inconfortable, un peu hybride, comme je l'ai eu pendant beaucoup d'années, en se disant « Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est quoi ?» Et ce sont des situations extrêmement intéressantes, quelque part, parce que ça permet de faire une recherche très approfondie, justement, sur le pluridisciplinaire, et de dépasser le cadre étroit de sa discipline, et donc de faire des découvertes d'autres choses. Et donc, Dealer Scofidio, parce que je parlais d'eux, j'avais lu une phrase où il disait « L'architecture, pour nous, c'est tout ce qui se passe entre la peau d'un homme et la peau d'un autre homme ». Et je trouvais ça extraordinaire par rapport à la danse. Donc, des gens qui n'étaient pas obsédés par la construction d'un bâtiment. Et je crois que tous ces gens-là, que ce soit Zahadi, soit d'autres, c'est des gens qui ont aussi un intérêt pour le corps, pour l'espace, pour la ville, et qui, à travers des choses qui ne sont pas nécessairement la construction de bâtiments, même si ça reste quand même leur travail premier, bien sûr. Mais donc, l'occasion de travailler avec des chorégraphes, avec des danseurs, est extrêmement intéressante pour eux, parce que ça permet d'expérimenter des choses sans les contraindre, justement, de leur discipline.
Merci à André Wilms et Frédéric Flamand pour leur participation à cette émission spéciale autour de la programmation du Festival de Marseille. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce magazine indisciplinaire au cours de cette saison. Et merci bien sûr à vous tous qui l'écoutez et nous témoignez votre intérêt et votre sympathie. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. D'ici là, bonnes vacances si vous partez. Continuez à écouter La Grenouille si vous restez à Marseille. Et je vous quitte avec cette citation d'Elias Canetti, extraite d'Erarijarijaka. Le ridicule de l'ordre consiste en ce qu'il dépend de si peu de choses. Un simple cheveu qui s'installe où il ne devrait pas peut le commuer en désordre. Eh bien, face au nouvel ordre mondial, nous avons bien besoin de ce désordre-là, qui ne tient qu'à un cheveu. Qui ne tient qu'à vous. Bon été. À bientôt.
Mesdames, messieurs.